Nous avons en dernier lieu, ça remonte déjà assez loin dans cette série, étudié les signes et préludes de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Nous avons vu ensemble un certain nombre des choses prédites par les prophéties de l'Ancien et spécialement du Nouveau Testament, mais nous avons laissé de côté ce qui concerne le peuple d'Israël, ou l'Israël selon la chair. Beaucoup de chrétiens au moins placent ce qui arrive ou ce qui doit arriver aux Israélites parmi les signes les plus éloquents, les plus déterminants, qui doivent marquer le temps du retour de Jésus-Christ. Et il semble donc tout à fait approprié que nous occupions aussi de l'aspect de l'enseignement biblique, ou de l'élément de l'enseignement biblique qui concerne ce sujet. Un certain nombre de chrétiens lisent même la parole de Jésus dans son grand sermon sur la fin des temps, quand il dit « Instruisez-vous de la parabole du figuier, quand le figuier commence à pousser ses feuilles, vous savez que l'été arrive. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez-le, le temps est proche. » Beaucoup de gens interprètent cette parole en pensant que Jésus, sous le nom de figuier, a voulu désigner Israël. Le figuier peut être un symbole d'Israël dans l'ensemble de la Bible. Le figuier était l'un des arbres principaux et précieux dans le pays même d'Israël. Donc ils pensent que Jésus a voulu désigner Israël sous ce mot de figuier, et que la parole pourrait se paraphraser de la manière suivante: quand vous verrez Israël recommencer à fleurir, se reconstituer, prospérer, alors sachez-le, la fin de la dispensation présente est toute proche. Le Seigneur va revenir de manière tout à fait imminente. Alors je ne pense pas que ce soit une juste interprétation de cette parole précise du Seigneur Jésus que vous trouvez dans Matthieu chapitre 24, versets 32 et suivants, et puis dans les parallèles. Parce que cette interprétation confond une comparaison et un symbole, ou une parabole qui est une comparaison développée, et un symbole, et une allégorie qui est un symbole développé. Alors je vous explique très très brièvement ce dont il s'agit. Ce n'est pas un point vital pour le sujet d'aujourd'hui, mais il faut quand même que vous soyez au clair. Quand on fait une comparaison, on prend deux choses et puis on cherche ce qui est semblable entre ces deux choses. La deuxième chose ressemble à la première. Donc quand on prend un symbole, la deuxième chose représente la première. Et on parle de la première en mentionnant la seconde. C'est pas la même chose. Une parabole, c'est une comparaison développée. Une allégorie où on a plusieurs symboles qui se répondent de manière systématique, c'est un symbole développé, pourrait-on dire. Or ici, Jésus n'use pas d'un symbole. C'est une comparaison, une parabole, dit le texte. Instruisez-vous de la parabole du figuier. Il dit c'est comme pour un figuier. Quand vous voyez un figuier et qu'il commence à pousser des feuilles, c'est le début du printemps, vous savez, l'été approche. De même, dit le texte, de même quand vous verrez ces choses, ce dont tout le discours parle avant. Donc le figuier ne représente pas là spécialement Israël. C'est pas un langage symbolique pour parler d'Israël. Cela dit, si on a bien compris donc quelle est la nature de la parole de Jésus, il se peut fort bien qu'Israël fasse partie de ces choses, ou qu'un changement dans les destinées d'Israël fasse partie de ces choses qui sont comme la pousse des feuilles sur le figuier et qui signalent donc la proximité du temps de la fin. En fait, je le crois. Je crois que quand on prend l'ensemble de l'Écriture, on peut conclure de cette façon. Et c'est ce qui va donc nous occuper aujourd'hui. Nous allons lire le chapitre le plus développé à propos des destinées d'Israël. Mais auparavant, je lance quand même un avertissement. Sur ce sujet, les chrétiens évangéliques ne sont pas tous d'accord. Il nous faut savoir que sur un certain nombre de questions, il y a des controverses, il y a des divergences d'opinions de personnes qui lisent la Bible en priant Dieu de les assister avec sérieux, avec compétence. Dieu a fait en sorte que les vérités cardinales pour la foi, celles qu'il faut recevoir pour être sauvé, soient toujours suffisamment claires pour tous les lecteurs sincères et sobres. Mais sur d'autres points, il peut y avoir des choses difficiles à comprendre. Nous sommes toujours en chemin vers la compréhension de la totale vérité du Seigneur. Et il faut savoir donc que sur cette question de la destinée d'Israël, qui n'est pas une question décisive pour notre salut à chacun, il y a des différences d'opinion sérieuses entre vrais chrétiens évangéliques. Il peut y en avoir parmi nous, des divergences de ce genre. Alors cela doit nous conduire d'une part à la prudence, ne pas affirmer de manière trop péremptoire. Ça doit nous conduire aussi à la tolérance, que nous acceptions que d'autres n'aient pas la même façon de lire que nous, c'est-à-dire façon de comprendre que nous. Il faut essayer de donner les raisons, etc. Il faut en débattre. Il ne s'agit pas de dire bon, on n'est pas d'accord, alors on n'en parle plus. Non. On en parle entre frères et sœurs, mais avec tolérance, avec cette attitude que Paul nous enseigne dans l'Épître aux Philippiens. Si vous êtes sur quelque point, sur quelque autre point, d'un autre avis, marchons d'un même pas. Et puis, troisièmement, cela doit aussi nous porter à plus de rigueur, que nous soyons plus vigilants encore dans notre étude pour qu'aucune idée étrangère à la Bible ne vienne désorienter en quelque sorte notre lecture. Alors le passage le plus important que je vous invite à lire pour commencer, c'est celui de l'Épître aux Romains au chapitre 11. Idéalement, nous pourrions lire les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains, parce que c'est la question des destinées d'Israël que l'apôtre traite précisément dans cet ensemble de trois chapitres. Pour lui, c'était une question très très brûlante. Dieu l'avait appelé comme apôtre des païens. Lui, Paul le Juif, il se faisait souvent claquer la porte au nez chez ses compatriotes, et parfois c'était pire que claquer la porte au nez. Hein. Il a subi plusieurs fois les 40 coups moins un, et on l'a tabassé. Il voyait des païens, des non-juifs, en très grand nombre accueillir l'Évangile. Et c'est le ministère que Dieu lui avait donné, apôtre des païens. Du coup, il avait l'air d'être un traître à sa propre nation. Et puis alors, vraiment, c'était difficile à comprendre comment le peuple qui avait reçu les promesses se tournait-il contre son Messie dans la majorité, en tout cas de ses ressortissants, en la personne de ses chefs. Alors Paul étudie dans les chapitres 9 à 11 la question d'Israël dans le dessein de Dieu. Et au chapitre 11, alors, il dit les choses qui vont nous intéresser le plus aujourd'hui. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? C'est ce qui semblait, hein. Israël dans sa majorité se détournait. Certes non, car moi aussi je suis israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie adresse à Dieu cette plainte contre Israël ? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul et cherche ta mort et la vie. Mais quelle est la réponse divine ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit, « Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir, et tient continuellement leur dos courbé. » Je dis donc, ont-ils trébuché afin de tomber? Certes non, mais par leur chute, le salut a été donné aux païens afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur défaite la richesse des païens, combien plus en sera-t-il de leur complet relèvement? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, de provoquer la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi tu subsistes par la foi. N'aie pas de pensée hautaine, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer à nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et contrairement à ta nature, greffé sur l'olivier franc, à plus forte raison seront-ils greffés, selon leur nature, sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage. Il y a endurcissement partiel d'Israël, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons sont gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde, eux aussi maintenant par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Je commencerai par une sorte de présupposé, d'élément de doctrine biblique qui ne concerne pas précisément l'avenir d'Israël, sinon par implication, mais qui en quelque sorte constitue le socle ou le soubassement de tout ce qu'on peut dire sur Israël dans le plan ou le dessein de Dieu. Il s'agira du rapport entre Israël et l'Église. Donc nous commencerons par poser en quelque sorte les bases, à construire le socle avec ce présupposé qui doit être ferme. Il faudra que j'aille assez vite, bien sûr, puisque c'est toute une doctrine qu'on peut développer dans un fascicule sur le péché et la rédemption. Vous avez donc, au début du fascicule 2, d'ailleurs, des développements plus longs si vous désirez en trouver. Puis ensuite, alors, j'en viendrai, deuxième partie, à l'essentiel de ce que nous pouvons attendre et espérer et demander dans la prière pour Israël, à savoir une conversion massive qui n'a pas encore eu lieu. Ce sera le deuxième point dans l'exposé. La troisième partie portera sur un sujet moins clairement révélé, me semble-t-il. D'autres frères et sœurs ne seraient pas du même avis que moi, hein, mais moins clairement révélé, et qui concerne un rétablissement ou restauration politique et géographique d'Israël. Comme impliqué par les prophéties, j'essaierai là aussi de faire le bilan pour arriver finalement à quelques remarques sur le sens ultime de tout ce que Dieu prévoit pour Israël. Quelle est la signification même de ce traitement particulier que Dieu a développé, a administré à ce peuple d'Israël et que, me semble-t-il, il veut encore administrer dans l'avenir. Quel est le sens de la chose? Nous sommes appelés à un effort d'intelligence dans la foi. Bon, nous ne pouvons pas toujours comprendre, mais nous pouvons essayer de comprendre. Alors, je commence donc par le présupposé sur le rapport entre Israël et l'Église. Certains disent, et d'autres réagissent très très fort, qu'Israël a été remplacé par l'Église. L'Église, nouvelle Israël, remplace Israël comme peuple de Dieu. C'est une formule que vous avez peut-être rencontrée et qui suscite souvent l'indignation de soit d'Israélites, soit d'autres chrétiens. Aujourd'hui, lors de la réunion du Centre évangélique d'information et d'action, il y a eu une table ronde sur Israël, et sur ce sujet, on a entendu quelques dissentiments entre les participants de la table ronde, et à mon avis, d'ailleurs, l'ensemble du sujet n'a pas été clarifié autant qu'il aurait dû l'être. La formulation de la thèse me paraît ambiguë, et je suis mal à l'aise aussi bien dans le oui que dans le non, trop simple, à la façon de parler que je viens de résumer. Quand on dit Israël a été remplacé par l'Église, même l'expression Israël, une Église nouvelle Israël, on fait une disjonction, on fait comme s'il y avait d'un côté Israël et de l'autre l'Église, et qu'on pouvait donc jouer de ces deux grandeurs, considérées séparément, est-ce que l'une remplace l'autre ou pas? Mais ce n'est pas le rapport que je crois discerner dans le Nouveau Testament. En fait, l'Église dans le Nouveau Testament, elle est en Israël, elle part d'Israël, elle est faite en tout premier lieu d'Israélites qui accueillent le Messie, qui reconnaissent en Jésus celui que les prophètes avaient annoncé, et ils constituent donc une communauté d'Israélites. Les non-juifs qui s'y joignent sont rajoutés à un noyau qui est Israël même. Ils deviennent, dans le langage de l'Épître aux Éphésiens, concitoyens des saints. Le mot saint, dans ce chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, désigne les Israélites qui ont reconnu en Jésus le Messie, et le privilège qui est donné aux non-juifs, que nous sommes pour la plupart ici, lorsqu'ils croient en Jésus, c'est de devenir concitoyens des saints, d'être rajoutés. Donc, l'Église n'est pas du tout conçue comme une sorte d'autre réalité, et de telle sorte qu'on pourrait faire des espèces de permutations. Oui. Même si on dit Nouvel Israël, c'est un Israël qui a subi le renouvellement de la venue à la foi grâce à l'accomplissement des prophéties, mais ce sont des Israélites qui sont restés, en un sens, israélites. Vous voyez ce qui me paraît trompeur dans la façon de parler. Le rapport est beaucoup plus complexe. Alors, parmi les données que dans le Nouveau Testament, on trouve, me semble-t-il, en première ligne, il y a que parfois, en fonction de ce rapport complexe que je viens d'évoquer, le titre d'Israël échoit à l'Église. Parfois, c'est tout à fait nié, mais c'est très probablement le cas, du point de vue de l'interprétation biblique, à la fin de l'Épître aux Galates. À la fin de l'Épître aux Galates, je suis assez persuadé par l'argumentation des commentateurs qui disent que quand Paul affirme « Sur tous ceux qui suivront cette règle », verset 16, Galates 6, 16, « Paix et miséricorde », ainsi que sur l'Israël de Dieu, il vaudrait mieux traduire ce qu'on peut faire hein, par la, selon la langue grecque, à savoir sur l'Israël de Dieu. Ceux qui suivent cette règle constituent l'Israël de Dieu. La conjonction qui est employée dans l'original, kai en grec, peut avoir la valeur emphatique d'insistance et donc être traduite en français, oui, l'Israël de Dieu, à savoir l'Israël de Dieu. En langage technique, de grammairien, on appelle ça le kai épexégétique. Donc, c'est tout à fait possible. Or, c'est cela qui convient au contexte, car quelle est la règle que Paul vient de poser, d'affirmer au verset précédent ? Ce qui compte, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais d'être une nouvelle créature. Alors, si Paul vient de dire, ce qui compte, ce n'est ni d'être circoncis, ni d'être incirconcis, et s'il faisait une séparation à l'intérieur de l'Église, après ça, entre les Israélites et les autres, il recommencerait à donner de l'importance à la circoncision, alors que précisément la règle qu'il pose, c'est qu'il n'y en a pas. Que la seule chose qui compte, c'est d'être une nouvelle créature, une nouvelle création en Jésus-Christ. Donc, la logique de Paul me semble imposer, et un certain nombre de commentateurs l'ont vu, que l'on comprenne qu'ici, l'Israël de Dieu, c'est ce peuple constitué des Israélites qui ont reconnu en Jésus le Messie, et auxquels se sont agrégés les païens qui ont fait de même. Oui. Donc, voilà un verset où l'expression Israël est employée, bien sûr qualifiée, Israël de Dieu, pour le peuple de l'Église. Autre verset qui a la même portée, bien que ce soit une implication et non pas une déclaration directe comme ici, c'est dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, lorsque Paul se réfère au culte israélite, judaïque si vous voulez, il dit, donc dans le 1 Corinthiens 10, au verset 18, « Voyez l'Israël selon la chair. » Selon la chair. Donc, s'il qualifie les Israélites qui continuent à servir au temple, ceux qui n'ont pas reconnu que le sacrifice de Jésus mettait fin au sacrifice du temple, s'il les qualifie d'Israélites selon la chair, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui sont selon l'esprit. Oui. Qu'il y a un Israël selon la chair, et donc un Israël selon l'esprit. Il n'y a pas seulement le mot Israël, il y a les équivalents dans le Nouveau Testament, les expressions qui sont pratiquement synonymes. La postérité d'Abraham. Qu'est-ce donc qu'Israël, sinon la postérité d'Abraham qui hérite des promesses? Or, prenez Romains 4, je vous donne rapidement les références simplement, prenez Romains 4, et vous verrez que Paul explique de manière très très claire qu'Abraham est le père des croyants, de ceux qui ont été circoncis et de ceux qui n'ont pas été circoncis. Justement, il a été justifié par la foi avant même d'être circoncis, pour que ce soit bien clair qu'il est le père des deux catégories de croyants qui sont de ce fait unis comme postérité d'Abraham. Donc, ceux qui croient en Jésus-Christ, que nous appelons couramment l'Église, sont la postérité d'Abraham. Au chapitre 2, il dit que celui qui est le juif véritable, c'est celui qui est circoncis selon l'esprit et non selon la lettre. Or, il souligne aussi que nous avons tous, par la foi en Jésus-Christ, c'est ce qui se fait lorsque nous croyons en Jésus, été circoncis de la circoncision du Christ par l'esprit. Donc, là encore, l'expression juif, dans Romains 2, est appliquée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, quelle que soit leur provenance raciale, ethnique, tradition. Vous avez les titres qui sont l'apanage d'Israël d'après Exode 19, d'après le texte de l'Alliance au Sinaï. Une nation sainte, un peuple élu, un sacerdoce royal. Vous prenez Exode 19, c'est la définition en quelque sorte du privilège d'Israël. Vous avez citation de ce verset et application dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Et l'apôtre Pierre, s'adressant à tous les chrétiens, et en particulier certains qui ne sont pas d'origine juive, c'est très clair par d'autres éléments dans l'épître, leur dit « Vous êtes la nation sainte, le sacerdoce royal. » Les titres caractéristiques d'Israël sont appliqués à l'Église. Donc, je crois qu'on n'en peut pas douter. Le vrai Israël, aux yeux de Dieu, le peuple auquel il est uni par alliance, se continue dans l'Église. Le mot « Église » lui-même, c'est le dernier élément que je donne avant de venir à l'image de l'apôtre Paul, le mot « Église » lui-même, d'ailleurs, signifiant « l'Assemblée d'Israël ». Le mot « Église », vous savez que c'est en français, la simple transcription du mot grec « ecclesia ». Ecclesia. On l'a pris du grec pour le mettre en latin, puis du latin en français. Oui, mais c'est ecclesia, c'est le mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament. Mais le mot ecclesia, c'était la traduction utilisée par les Juifs eux-mêmes du terme kahal, qui est le mot pour Israël rassemblé dans la loi de Moïse, dans pas mal de textes de l'Ancien Testament. L'assemblée de l'Éternel, c'est la kahal, Adonai. Donc le mot ecclesia, c'est une référence à Israël, en fait. Oui. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans le discours d'Étienne, au chapitre 7 du livre des Actes, le mot ecclesia est employé pour l'assemblée au désert, l'assemblée d'Israël au désert. Donc le mot même est une référence à cette continuité. Et alors j'en viens à l'image qui nous dit ça tellement clairement que je vois vraiment pas comment on peut manquer ça. Mais enfin, bon, je suis obligé de constater que certains ne le voient pas si clairement. L'image de l'olivier dans l'épître aux Romains. Là, l'olivier est un symbole. Vous voyez la différence. C'est pas comme le figuier en Matthieu 24 qui était une comparaison, une image à laquelle Jésus comparait les événements qui montrent que la fin des temps approche. Mais dans Romains 11, l'olivier, c'est le symbole d'Israël. Et que dit l'apôtre Paul? C'est très clair. Il y a un olivier dont les racines sont saintes. Les racines, ce sont les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, les ancêtres des 12 tribus. Ils ont été choisis par Dieu, saints. C'est eux qui constituent les racines. L'olivier, c'est Israël, élu par Dieu. L'olivier domestique, l'olivier qui porte de bons fruits. Hein. Et puis, il dit, certaines branches ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Vous voyez ? L'olivier continue d'exister, mais les Israélites qui ont refusé de croire en Jésus ont été comme des branches coupées de cet olivier. Et alors, dans cet olivier, bizarrement, c'est pas comme ça que ça se passe en horticulture, mais des branches prises d'un autre olivier sauvage ont été greffées de telle sorte qu'elles font partie maintenant de l'olivier. Ce sont les non-juifs qui ont cru en Jésus. ce sont ces païens, par origine, qui, par la foi, se trouvent maintenant dans l'olivier, participant de la sève de l'olivier, portant le fruit de l'olivier. Donc c'est vraiment très très clair, vous voyez, l'olivier, moins les branches incrédules qui ont été retranchées, plus les branches d'autres origines qui ont été greffées, c'est exactement l'Église. L'Église est formée des Israélites qui sont restés dans l'olivier et des non-juifs qui ont été greffés dans l'olivier. L'Église, c'est Israël qui continue. Et les Israélites, selon la chair, qu'on appelle couramment, oui, dans la vie de tous les jours, Israël, ce sont des branches coupées de cet olivier. Oui, je crois que vraiment, la vision est extrêmement claire. Alors, si vous pouvez être d'accord sur ce point, bon, si vous n'êtes pas d'accord, nous aurons peut-être le temps d'en reparler. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Quelle est l'attente que l'Écriture nous autorise à propos de l'Israël, des branches coupées de ces Israélites selon la chair qui ne sont plus dans l'olivier actuellement, puisque c'est nous qui y sommes, nous les non-juifs, par la foi en Jésus. Qu'est-ce qu'on peut penser? La lecture que font la plupart des chrétiens évangéliques, je crois, une majorité, disons, du chapitre de l'Épître aux Romains que nous avons lu, c'est que Dieu prévoit de regreffer dans l'olivier ses branches coupées, de les conduire à la foi de telle sorte que ces Israélites selon la chair deviendront aussi des Israélites selon l'esprit et qu'ils entreront dans la communion que représente la participation à la sève de l'olivier, qu'il y aura un grand mouvement, en quelque sorte symétrique, du mouvement de rejet qu'il y a eu au début de l'ère chrétienne. L'interprétation est la suivante, donc, au début de l'ère chrétienne, Jésus, le Messie, accomplit son œuvre, mais la majorité dans l'Israël selon la chair, dans l'olivier, refuse de le reconnaître. Il y en a qui le reconnaissent, qui restent, mais ils constituent un reste, le reste selon l'élection de la grâce, dit Paul. Paul en a été, oui, il le dit bien, et ainsi c'est la preuve que Dieu n'a pas simplement tout rejeté Israël, oui. Mais ils ont été une minorité, et la masse du peuple, et ses chefs en particulier, ont été retranchés pour cause d'incrédulité. Et dans ce sens, Paul peut parler de rejet. Rejet, mais provisoire. Après ça, c'est le temps des nations. Un temps que Dieu a prévu dans son plan pour que la plénitude des nations, le nombre total des païens qui doivent être sauvés, entre dans l'olivier et participe ainsi du salut. Et puis alors, symétriquement, à la fin de cette ère du salut, il doit y avoir une entrée massive, le temps des païens venant à son terme, une entrée massive d'Israélites selon la chair, qui entre dans l'olivier, regreffé, et ainsi tout Israël sera sauvé. Oui. Voilà la lecture qui est la mienne. Alors je signale que ce n'est pas celle de tous. Il faut être loyal, en particulier Monsieur Georges Moukari, que vous avez bien connu, les anciens, tous les anciens ici au tabernacle, a écrit son mémoire de maîtrise en théologie dans notre faculté, je l'ai ici avec moi, pour essayer d'argumenter pour une autre conception, en rejetant cette idée d'une conversion future massive à attendre d'Israël. J'ai fait partie du jury de ce mémoire, je l'ai trouvé très bien fait, il a eu mention très bien, mais je n'ai pas été convaincu par les arguments. Et du coup, je me dis, d'autant plus, si un si bon mémoire n'a pas réussi à me convaincre, si je trouve qu'il y a des arguments plus forts en sens contraire, alors je suis d'autant plus assuré de l'autre opinion. Je crois qu'il y a une attente que l'apôtre Paul vraiment nous dit, voilà, leur rejet a eu pour conséquence donc que l'Évangile s'est diffusé dans toutes les nations, ça a été dans ce sens la vie du monde, mais qu'est-ce que ce sera alors quand ils entreront? Quelle plénitude de bénédiction! Ce sera comme la vie d'entre les morts. Donc il me semble que Paul ne pense pas seulement, comme le croit M. Moukari, qu'il s'agit des individus israélites qui, tout au long de l'histoire de l'Église, se joignent, se convertissent. Il y en a, heureusement. Gloire à Dieu, et Dieu vraiment en fait une bénédiction pour son Église, qui est l'olivier. Il y a des regreffes, brin par brin, si vous voulez. Petit rameau par petit rameau, tout au long des siècles. Mais il me semble que Paul attend quelque chose de plus, qu'il présente comme une sorte de symétrie par rapport au rejet massif du début. Rejet massif du début, endurcissement partiel d'Israël pendant le temps des nations, et puis alors, le grand mouvement, le libérateur, le rédempteur vient de Sion, Jésus-Christ, à partir de son Église, détourne le péché de la race de Jacob, et ainsi il y a une conversion massive. Comment est-ce que ça se présentera? Je crois que le modèle des grands réveils est le modèle qui a le plus de chances de correspondre. Tout Israël, ça ne veut pas dire forcément tout individu, sans exception, parce que c'est pas comme ça que Dieu travaille en général. Il y a toujours une responsabilité individuelle qui reste. Et puis le rejet n'a pas été non plus, voyez, un rejet de tous les individus, justement, il y a eu le reste. Donc je pense que ce sera à peu près symétrique. Mais il y aura un vaste, puissant mouvement de venue à la foi en Jésus. Le mot de conversion, peut-être, doit être utilisé prudemment. Non pas qu'il soit faux, pas du tout. Mais souvent les Juifs ont une mémoire si douloureuse des efforts de conversion avec persécution à la clé dans les temps de la chrétienté, que lorsqu'on emploie le mot de conversion, ils ne comprennent pas qu'il s'agit de se tourner vers Jésus-Christ, de se détourner des voies d'incrédulité, et ils pensent qu'il s'agirait d'une sorte de trahison par rapport à leur héritage de judaïsme, ce qui n'est pas vrai. Alors le mot de conversion, il est peut-être plus sage, lorsqu'on parle avec des juifs, de l'éviter, mais en employant des mots équivalents, en disant se tourner vers Jésus, reconnaître en Jésus celui que les prophètes avaient annoncé, se soumettre à sa seigneurie. Alors on peut se demander, si vous voulez qu'on en discute tout à l'heure, on pourra le faire, mais on peut se demander à quel moment exactement va se produire ce mouvement massif que j'attends vraiment. Et donc je crois que, comme les choses que Dieu a promises, elles peuvent être l'objet de notre prière. Nous demandons à Dieu d'accomplir ses promesses. C'est la clé de la prière. À quel moment? Est-ce que c'est au moment même où le Seigneur Jésus apparaît? Est-ce que c'est la vue de Jésus glorifié qui va produire ce revirement de conversion? Certains s'imaginent cela, et surtout à partir d'un texte comme celui de Zacharie, repris au premier chapitre de l'Apocalypse, au verset 7, lorsqu'il est dit qu'ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, et que toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. On pourrait croire que ça veut dire que c'est la vue même de celui qui a été transpercé et qui maintenant est le roi glorieux qui produit la conversion, symbolisée par les pleurs, le deuil de la repentance. Je ne pense pas que ces textes exigent ce sens. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas forcément la venue visible et finale de Jésus en gloire qui est en cause. Ce peut être aussi la vue de sa seigneurie par la foi et par tous les signes au cours de l'histoire qui est en cause dans ces passages. Là, les commentateurs discutent, mais il me semble sage de dire ce n'est pas forcément le retour glorieux, l'avènement, la parousie qui est en cause, et les pleurs de repentance ne se situent pas forcément après non plus. Donc, je ne pense pas qu'on doive faire dire à ces versets que cette conversion a lieu juste au moment où le Seigneur Jésus paraît, et à la suite de l'apparition, C'est plutôt, alors me semble-t-il, un événement qui se situe avant, en particulier sur la base du maintenant de Romains 11. Un maintenant assez étonnant, sans doute. On attendrait le mot plus tard, or c'est le mot maintenant qui se trouve dans les meilleurs manuscrits. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi, afin d'obtenir miséricorde, eux aussi, maintenant, par la miséricorde qui vous a été faite. Comprenez bien donc ce dont il s'agit. Vous, les païens, le mot païen voulant dire non-juif, vous, les païens, vous étiez autrefois dans la désobéissance, servant des idoles, refusant de reconnaître le vrai Dieu. Le mot désobéissant, d'ailleurs, pourrait signifier aussi incrédulité, en fait. C'est la désobéissance de l'incrédulité, plus spécialement. Vous, autrefois, vous étiez désobéissant en tant qu'idolâtre, et par le moyen, en quelque sorte, de la désobéissance des Juifs, qui a conduit les apôtres à prêcher aux non-juifs, et en particulier Paul, à se tourner vers les non-juifs. Il commençait par la synagogue, et puis il disait, vous ne vous êtes pas dignes de la parole de Dieu, et il se tournait vers les non-juifs. Donc, par le moyen du refus de croire des Israélites au premier siècle, les païens qui étaient, donc, des désobéissants, qui n'étaient pas dans la foi biblique, ont obtenu miséricorde. Eh bien, de même maintenant, les juifs qui sont dans la désobéissance, du point de vue de la foi. Ils refusent de croire. De même, ils obtiendront miséricorde. De la même façon que les païens ont obtenu miséricorde. Étant dans la désobéissance, ils seront touchés par une pure grâce de Dieu. Mais alors on attendrait, dans la logique de cela, de même, ils ont maintenant désobéi, ou ils sont maintenant désobéissants, afin d'obtenir miséricorde, eux aussi, plus tard. Voilà ce qu'on attendrait. Surtout qu'il est assez clair que c'est quand le temps des nations sera achevé, d'après les versets qui précèdent, que ça se produira. Or, pourtant, Paul emploie l'adverbe « maintenant ». Pourquoi ce « maintenant » Je crois que c'est pour marquer que ce n'est pas pour une autre époque dans le plan de Dieu, que c'est dans la dispensation présente, l'ère présente. Donc, ça se situe avant le retour du Seigneur Jésus. Ça, me semble-t-il, c'est ce que nous pouvons, devons attendre, et tout notre témoignage auprès de nos amis, disons, d'identité juive, doit nous porter... doit s'inscrire en quelque sorte dans cette attente. Et on peut signaler, me semble-t-il, qu'il y a une modification d'attitude de grands intellectuels du judaïsme qui est peut-être un prélude, qui montre que Dieu prépare déjà pas mal de juifs pour Jésus, y compris quelques milliers en Israël, mais ils ont la vie dure. Mais il y a aussi de grands intellectuels qui, sans reconnaître en lui le Messie, ne disent plus, comme le dit le Talmud, que c'était un sorcier, qu'il égarait le peuple, qu'ils sont prêts déjà à un regard plus favorable. C'est peut-être la manière dont Dieu prépare ce grand revirement. Mais la question qui se pose, donc en troisième lieu, c'est celle d'un rétablissement non seulement spirituel, parce que ça c'est un rétablissement spirituel, mais politique ou géographique aussi. Vous avez pas mal de chrétiens évangéliques qui raisonnent de la manière suivante. La terre d'Israël a été promise à Abraham comme un bien perpétuel, une possession à toujours. Et la prédiction des prophètes, c'est qu'en effet, Israël dispersé revient au bout du compte dans son territoire. Le royaume qui a été détruit est rétabli. Donc, c'est cela qui est le dessein de Dieu pour Israël. Et nous le voyons se
sorte d'ambassade
de chrétiens qui ont cette optique-là. Alors il y a deux questions, me semble-t-il, qu'il faut distinguer. Il y a la question du droit et la question du fait de l'accomplissement prophétique. Doit-on dire qu'il y a un droit inaliénable sur cette terre pour les descendants, selon la chair, d'Abraham? La question est délicate et je pense que je ne peux vous donner ici que des conclusions aujourd'hui. Ma conclusion, c'est plutôt non. En m'appuyant sur deux données principalement. La première donnée, c'est que dans l'Ancien Testament lui-même, cette possession est assortie de conditions de fidélité. En particulier dans le 28e chapitre du Deutéronome. Ce n'est pas, cette possession a toujours, une possession qu'Israël peut prétendre alors garder sans que son attitude compte du tout à cet égard. Ça, c'est le premier point. Et il semble par la suite qu'Israël, par sa désobéissance, ait comme perdu son droit. Deuxième considération, là qui concerne aussi le fait même des prophéties, la clause « à toujours » dans les textes de l'Ancien Testament veut dire « jusqu'à ce que Dieu change de régime ». En tout cas, très souvent, elle veut dire cela, comme d'ailleurs dans les traités de vassalité de l'époque, on a retrouvé le suzerain et le vassal ont un pacte entre eux qui les lie. Alors il y a des choses qui sont dites à toujours, mais on sait que ça veut dire le vassal, lui, il n'a pas le droit de changer. Il ne peut pas dénoncer les clauses du pacte. Il est lié. Mais le suzerain, lui, il peut changer de régime quand il lui plaît. À mon avis, nous ne pouvons pas lire la Bible sans admettre cette thèse. La circoncision au chapitre 17 de la Genèse, elle est dite comme une alliance à toujours, perpétuelle. Or, le Nouveau Testament nous dit clairement que la circoncision, c'était un signe temporaire qui est remplacé maintenant par la circoncision intérieure, la circoncision du Christ, et qu'il n'y a plus d'obligation d'être circoncis. Tout le combat de Paul va dans ce sens. Donc, le « à toujours » doit s'interpréter comme je l'ai expliqué. C'est la même chose pour le sabbat, qui est présenté de cette façon. C'est la même chose en Jérémie 33 pour le sacerdoce lévitique. Il est dit que Dieu le maintiendra à toujours. Or, l'Épître aux Hébreux nous dit bien qu'il est aboli. Pour que la Bible soit prise dans son unité, il faut admettre que le mot « à toujours » donc se réfère à une période indéfinie que le suzerain a le droit d'achever lorsqu'il change le régime, il en a l'autorité. Et en ce qui concerne la possession du pays, je crois que le Nouveau Testament nous montre très bien que lorsque la postérité d'Abraham promise vient enfin, Jésus, la possession du pays prend un autre sens. Dans Romains 4, elle est interprétée comme la possession du monde, pas seulement d'un pays, d'une terre, mais c'est le fait que la descendance d'Abraham, qui est sa descendance dans la foi, devient propriétaire du monde. Tout est à vous, vous êtes à Christ, mais tout est à vous. Dit Paul aux chrétiens, nous sommes les héritiers du monde, de l'univers en Christ. Et c'est ce que représentait comme une figure la terre. Et c'est un sens un peu différent, mais équivalent au bout du compte, qu'Hébreux 11 nous suggère en disant que les patriarches n'attendaient pas en dernier lieu, en dernière instance, la terre, la patrie terrestre, mais une patrie céleste est la cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oui. Là, vous avez dans Hébreux 11, vous pourrez le relire, une affirmation très forte que la véritable attente des patriarches, c'est de cette patrie céleste, dont la terre n'est une fois de plus qu'un type, qu'une image. Alors ça, c'est pour l'aspect du droit. Oui. Je crois qu'il faut donc le voir dans une autre perspective que certains autres chrétiens le font. Quant à l'aspect de l'accomplissement de prophéties, je crois que beaucoup des prophéties de l'Ancien Testament qui sont citées par nos frères, dont je ne partage pas tout à fait l'avis, en fait, se sont accomplies dans l'histoire déjà il y a longtemps, et que nous n'avons pas le droit de dire c'est pour le retour de ce qui reste quand même une fraction, seulement une minorité d'Israélites aujourd'hui en terre de Canaan, d'Israël. Nous n'avons pas le droit de transplanter ces prophéties de leur cadre historique donné dans l'Ancien Testament. Et si on voit que ces prophéties se réfèrent au retour de l'exil au VIe siècle avant Jésus-Christ, et qu'on n'a pas le droit de dire « Ah ben ça doit se faire aussi comme ça au XXe siècle après Jésus-Christ », alors il ne reste pas beaucoup de textes. En particulier dans le Nouveau Testament, il n'y a vraiment pas beaucoup de textes. Surtout que au premier chapitre du livre des Actes, la traduction « Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël » n'est pas une traduction très juste. Littéralement, c'est « Est-ce en ce temps-là que tu restitueras le royaume à Israël ?» Or, il est question du royaume de Dieu. Il parlait deux versets plus haut du royaume de Dieu, il les a instruits sur les choses du royaume de Dieu, et le verset donc correspond très bien à ce qu'on a en Matthieu 21, 41 ou 42, où il est dit que le royaume sera enlevé au chef d'Israël pour donner à une nation qui emporte les fruits, l'Israël renouvelé. Oui. Le royaume est enlevé, ils sont retranchés de l'olivier, si vous voulez, c'est deux façons de dire la même chose. Et puis les disciples demandent quand le royaume de Dieu, qui est la joie, la paix par le Saint-Esprit, la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit, le sera restitué à Israël par la conversion. Donc il n'y a pas grand-chose dans le Nouveau Testament, mais il y a quand même un verset. Et moi je pense que ce verset peut être pris dans ce sens, c'est Luc 21-24. D'accord, c'est pas une preuve absolue, je suis d'accord, mais moi je le prends quand même de cette façon. Jésus dit que Jérusalem, et dans le contexte ça paraît vraiment la Jérusalem littérale, sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations ou des non-juifs soit accompli. Luc 21-24. Alors c'est ce même temps des nations que nous avons aussi, semble-t-il, dans Romains 11. Ce temps qui est donné pour l'évangélisation de toutes les nations, après quoi la conversion d'Israël aura lieu. Pendant ce temps des nations, Israël foulait aux pieds. Fouler aux pieds, ça veut dire exercer le droit du souverain, du conquérant. Cette parole suggère au moins, elle ne dit pas carrément d'accord, mais suggère au moins que après ce temps des nations, au moment de la fin de ce temps des nations, donc Jérusalem sera de nouveau sous le contrôle politique des Juifs, des Israélites, au lieu d'être foulé aux pieds par les nations. Si on comprend comme ça, c'est comme ça que je comprends, c'est quand même impressionnant de penser que depuis la révolte de Bar Korba en 130 après Jésus-Christ, donc pendant très très longtemps, Jérusalem a été des siècles, des siècles et des siècles foulée aux pieds par les nations, sous domination politique non juive, et que depuis 1967, ce n'est plus le cas. C'est quand même assez frappant. Moi, je ne pense pas, certains chrétiens pensent que c'est une imitation diabolique, que c'est le diable qui a manigancé tout ça pour égarer les lecteurs de la Bible. Moi, je ne pense pas que Dieu l'aurait permis. Je trouve que c'est tellement impressionnant que Dieu est, après tant de temps, c'est contre toutes les probabilités humaines, la permanence de cette tradition juive et ce rétablissement d'un contrôle politique juif, israélite, que je pense quand même que cette parole de Luc 21-24 a ici son accomplissement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au reste de ce que j'ai expliqué? Ça ne veut pas dire que toutes les prophéties de l'Ancien Testament, alors en effet, ont cet accomplissement-là. Ça ne veut pas dire que le régime politique en place à Tel Aviv ou Jérusalem soit nécessairement approuvé de Dieu et que les chrétiens doivent le soutenir dans toutes les politiques qu'il adopte. Pas forcément du tout. Dans l'Ancien Testament, les rois qui étaient établis par Dieu, quand ils commettaient des injustices, étaient avec véhémence condamnés par les prophètes. Il ne s'agit pas forcément donc d'être les bénis oui-oui pour les chrétiens des décisions prises par le gouvernement israélien, pas du tout. Mais est-ce que ça veut dire que le retour est un thème principal dans la Bible? Je ne crois pas. Il y a juste ce verset qui vraiment me paraît net dans tout le Nouveau Testament. Non. Mais je le comprends comme un élément dans la préparation du grand événement attendu, la conversion. Le mouvement d'adhésion à Jésus. L'expérience des grands réveils jusqu'à présent a été qu'il semble quand même lié quelque peu à la géographie, en partie au moins. On parle du réveil du Pays de Galles, du réveil de la Drôme. Ces grands mouvements de conversion massive, Dieu les a produits, semble-t-il, dans des aires géographiques assez déterminées. Bon, avec des ramifications ensuite, ça rayonne, mais... Alors, si Dieu vraiment, comme je le crois, je l'espère, prévoit d'entraîner dans la foi un nombre considérable d'Israélites, oui, je trouve assez logique, si j'ose dire, qu'il ait commencé par rassembler dans le lieu traditionnel, dans la terre d'Israël, un nombre considérable de ces Israélites. J'y vois une démarche qui annonce ce que Dieu va faire. Pour le moment, il n'y a pas de revirement massif de la population pour Jésus, pas du tout, hein, pas du tout. Mais nous savons bien que souvent les pécheurs vont jusqu'au paroxysme de la révolte juste au moment où le Seigneur les retourne dans sa grâce. Saul de Tarse, qui est un Israélite tellement typique, respirant la menace et le meurtre, allait porter la persécution jusqu'à Damas quand le Seigneur l'a arrêté. Donc l'attitude négative de l'énorme majorité en Israël aujourd'hui ne doit pas nous décourager dans l'attente de la conversion d'Israël. Et le fait qu'il y ait un rassemblement géographique, même s'il est encore très partiel, me semble une démarche qu'accomplit le Seigneur en vue de cette grande bénédiction que nous pouvons attendre. Je crois que je fais mieux de ne pas entrer dans le quatrième paragraphe. Nous avons encore juste quelques minutes pour un moment d'échange, si vous le souhaitez. Donc, je pense que ce dernier point, c'est le point qui pouvait correspondre à des questions dans votre esprit. Je vous laisse maintenant la parole, si vous voulez réagir. Oui, Monsieur Jacques Richard, Monsieur Berger, Monsieur Patin, Michel.
Je viens de lire un livre récemment que tu connais peut-être, le titre m'échappe dans l'instant, sur la reconstruction du temple de Jérusalem. Mm-hmm. Et est-ce que tout le monde entend bien?
Oui.
Il y a une question que je te pose par rapport à Israël et à tout le rituel qui s'accomplisse, que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Comment pendant si longtemps, au fond, puisque le temple a été détruit, peu après la mort et la résurrection de Jésus, comment pendant si longtemps ont-ils pu garder cette identité religieuse et spirituelle, en quelque sorte, jusqu'à maintenant? Et dans ce retour, dans cette renaissance politique d'Israël, il semble qu'il y ait le projet chez un nombre de militants juifs Dieu le projet de reconstruire le temple et de le restaurer. Il se livre, semble-t-il, à toute une analyse des prophéties de l'Ancien Testament concernant leur peuple, analyse qui souvent a l'air de se rapprocher de celle que les chrétiens évangéliques font, et je crois que ces mouvements-là sont soutenus d'ailleurs par un certain nombre d'évangéliques en Amérique. Comme l'an prochain sera célébré, je crois, le troisième millénaire de la conquête de Jérusalem, et que doit se discuter la question du statut international de Jérusalem. On peut peut-être craindre qu'il y ait quelques excès à ce moment-là, mais comment tout ceci, comment le vois-tu, quel est le regard que tu portes là-dessus?
Alors, deux ou trois choses, je ne peux pas traiter exhaustivement cette question, mais le premier point, c'est qu'il me semble très, très intéressant que la privation de temple et donc de sacrifice a marqué le judaïsme d'après l'ère chrétienne, donc de l'ère chrétienne, d'après la première venue de Jésus-Christ. J'étais très frappé en lisant des ouvrages sur le judaïsme écrits par des rabbins, en particulier le livre du grand rabbin Epstein, de voir que les sacrifices, pratiquement, ils n'en parlent pas. Ça ne l'intéresse pas. Le judaïsme se comprend comme un développement de la loi, comme pourvoyant une morale, une vision du monde, où le monde est création de Dieu, donc valorisé, y compris dans ses aspects matériels. Ça, c'est l'interprétation que ces penseurs du judaïsme font de leur judaïsme, mais ce qui pour nous est si important dans l'Ancien Testament, tout le système des sacrifices, ça passe à l'as. Alors c'est un effet de cette privation, ils ne peuvent pas avouer que cette privation est vraiment un manque très douloureux, et ils anesthésient en quelque sorte cette blessure, mais en même temps c'est bien le prolongement du légalisme pharisien, et c'est comme pour moi la preuve que la correspondance entre l'Ancien Testament et Jésus avec son sacrifice, voyez, c'est ce qu'ils ne voient pas. Le voile est sur leur cœur, ils ne voient pas dans l'Ancien Testament toute cette part des sacrifices parce qu'elle ne s'accomplit qu'en Jésus. Ce n'est qu'en Jésus que vraiment tout cela prend sens. Voyez. Alors ils gomment ça de leur Ancien Testament. C'est intéressant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Si les Israélites ou des fondamentalistes américains qu'on reconstruise un temple à Jérusalem et s'y se mettent à y offrir des sacrifices, je crois qu'on ne pourra en aucune façon considérer que c'est approuvé de Dieu et que ça correspond à des prophéties. Je crois que c'est par faute d'interprétation, par erreur, que certains croient lire cela dans Ézéchiel 40 à 48, mais je crois montrer que ça ne peut pas jouer, c'est tout à fait contraire à l'enseignement explicite de l'Épître aux Hébreux. Alors, qui nous dit que ça a été aboli, que c'était un système faible, institué à titre temporaire par Dieu, et que maintenant, le sacrifice de Jésus-Christ a aboli cela. Ça ne pourra pas être approuvé par Dieu. Alors, est-ce que ce sera lié, dernier point, à l'Antichrist? Certains comprennent 2 Thessaloniciens 2, qui nous dit que l'homme d'iniquité ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, de l'Antichrist qui s'assiérait dans le temple reconstruit à Jérusalem. Mais la plupart des interprètes pensent que le temple de Dieu, ce serait plutôt l'Église ou une fausse Église, en l'occurrence. Donc là, il y a incertitude. Voilà, Monsieur Berger, avez-vous la parole pour Monsieur Patin?
Simplement que si le temple est reconstruit, c'est pas obligatoire qu'il y ait des sacrifices dedans.
Oui.
Deuxième point, il y a une chose que je voulais préciser, c'est que Israël a été rejeté à plusieurs reprises. Il y a eu à plusieurs reprises des réveils en Israël. Mais alors, ce qui était terrible, quand ils ont prononcé cette malédiction terrible qui les avait atteints, c'est que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et ça s'est réalisé pendant 20 siècles. Ils ont été errants, ils n'ont pas réussi nulle part à obtenir leur citoyenneté. Et que c'était la France qui est la première, au moment de la Révolution, à accepter les Israélites comme citoyens français. Mais, ça c'est tout ça. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que souvent, les juifs messianiques se croient être des chrétiens supérieurs parce qu'ils sont israéliques. C'est une chose que je ne crois pas, parce que je crois que c'est toujours le même Seigneur qui nous a sauvés tous.
Bon, moi je ne peux dire que oui, amen à ce que vient de nous dire Monsieur Berger. Alors, je ne fais pas d'autres commentaires. Monsieur Patin.
J'ai deux questions. La première, parmi les tenants de la thèse de la conversion massive d'Israël,
oui.
Est-ce qu'il y a des théologiens qui sont à l'origine de cultures anti-israélites? Première question. Et deuxième question, nous devons nous attendre à une conversion massive d'Israël. Il semble qu'elle soit préparée par Dieu et en quelque sorte miraculeuse. Quel rôle, nous, chrétiens israéliens, avons-nous à jouer dans cette conversion? Est-ce qu'on a qu'à attendre que le Seigneur agisse et il va faire un merveille? Et aussi, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme enseignement, nous, dans notre attitude vis-à-vis des autres païens, dans les temps qui restent, le temps des nations qui restent.
Oui, question tout à fait fine et intéressante. En ce qui concerne l'origine culturelle de ceux qui ont l'interprétation que j'ai aussi développée, en général, il s'agit de nos pays occidentaux. Je crois qu'on peut dire qu'il y a un antisémitisme rampant qui a existé en France et en Allemagne également. Or, beaucoup des théologiens en cause sont de ces provenances. Je peux signaler que du côté catholique, essentiellement depuis Léon Blois, c'est un phénomène qui n'a pas plus d'un siècle, un peu moins, c'est une attente aussi qui s'est implantée. Maritain, qui avait Léon Blois comme parrain à son baptême de conversion catholique, a fortement affirmé cette attente d'une conversion massive d'Israël. L'Église romaine n'y pensait pas tellement, à ma connaissance en tout cas, jusqu'au XIXe siècle, mais c'est vers à la fin du XIXe siècle. C'est intéressant à signaler en réponse à la première question. La deuxième question, quel peut être notre rôle? Je pense que Dieu peut se servir de nous comme ses instruments. Que là, vraiment, nous n'avons jamais, bibliquement, à faire de disjonction entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre qui nous est donnée à faire. Nous sommes ses instruments. De toute façon, si ce n'est pas Dieu qui agit par nous, alors c'est pas la peine de nous y mettre. Et le souhait de Dieu, c'est de se servir de ses enfants comme ses instruments. Alors si nous savons que c'est le plan de Dieu, je ne sais pas comment il se servira de ses instruments, mais je pense qu'il se servira de chrétiens. Et certains chrétiens non-juifs, oui, je pense qu'il le fera. Et s'ils ont cette attitude humble et respectueuse, qui convient, qui est d'ailleurs réclamée par Paul dans Romains 11, en disant ne te vante pas, ne te glorifie pas, c'est par grâce que tu es dans cet olivier, alors ne fais pas le malin. Voilà ce que dit Paul, et c'est, à coup sûr nous avons à le prendre à cœur. Donc comment Dieu fera, je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup admiré l'écho que j'ai eu de la manière dont Billy Graham s'est adressé à des juifs dans une synagogue, je crois que c'est à Budapest quand il a rendu visite en Hongrie. C'est d'une sagesse spirituelle admirable. Je pense que Dieu peut se servir de ce genre de choses. Il leur a dit, je ne viens pas pour vous convertir, c'est vous qui m'avez converti. Comme ça qu'il a commencé. Mais en expliquant que, précisément ce que je vous ai dit, qu'être un disciple de Jésus, c'est être rendu concitoyen des saints, greffé dans l'olivier Israël. Alors, il prévenait les malentendus, il psychologiquement, il trouvait la bonne longueur d'onde, et en même temps, il annonçait le message fidèlement. Je crois que Dieu peut se servir dans l'avenir de non-juifs comme Billy Graham pour introduire finalement ce grand mouvement. Et en attendant ce grand mouvement, alors ne surtout pas mépriser les petits commencements et la richesse des conversions individuelles qui se produisent tout au long de l'histoire et aujourd'hui. De toute façon, c'est passé pour la dernière génération que ce grand mouvement va tellement compter. Et les Israélites qui n'auront pas cru et qui seront morts, ils ne seront pas sauvés. Pas plus que les autres ressortissants des nations. Donc, que cette promesse n'attiédisse pas notre zèle, au contraire. Oui. Et alors, en ce qui concerne la fin du temps des nations, je crois pouvoir dire que, bibliquement, les grandes périodes que Dieu délimite dans l'histoire ne se terminent pas, ou ne se terminent pas toutes, en tout cas, du jour au lendemain. Le temps des nations, il ne se termine pas à minuit exactement, le 21 décembre 1967, ou je ne sais. Même pour la transition de l'Ancien au Nouveau Testament, il y a eu toute une génération. Il y a eu 40 ans entre Jésus et la fin de Jérusalem. Et encore, il y a eu la révolte de Bar Corba au IIe siècle. Donc, Dieu fait ses transitions dans l'histoire. Je crois que nous arrivons à la fin du temps des nations. Mais il ne faut pas dire, maintenant, on n'évangélise plus, c'est fini, puisque Jérusalem est sous contrôle politique israélien, donc c'est fini, l'évangélisation va s'arrêter. Non, non, ça ne serait pas du tout dans les perspectives bibliques, me semble-t-il. Voilà, merci bien alors à tous.